Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Écoles, transports, rassemblements sportifs et culturels, quand la planète accélère un repli sur elle-même à la hauteur de la psychose créée par la pandémie du nouveau coronavirus, à l'instar par exemple du krach historique des bourses mondiales hier. Avec plus de 130 000 personnes contaminées, près de 5 000 décès et des infections s'étendant désormais de la Scandinavie à l'Inde et de l'Amérique latine à l'Extrême-Orient, les gouvernements s'escriment tant bien que mal à freiner la propagation de la maladie.
Et c'est ainsi par exemple que la France a rejoint la liste des pays dont les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités vont fermer.
Oui, hier soir, Emmanuel Macron a également demandé aux seniors de plus de 70 ans de rester chez eux, sans toutefois décider de reporter le premier tour des élections municipales prévues dimanche. Voilà donc encore aujourd'hui, l'essentiel de ce journal sera consacré aux conséquences de cette pandémie mondiale en France. Tout d'abord, ses impacts sur la vie quotidienne, l'inquiétude grandissante des spécialistes de la santé également, et puis les impacts du coronavirus sur l'économie mondiale en dépit des aides massives d'ores et déjà annoncé par tous les grands argentiers de la planète. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec le portrait d'un historien obsédé par la vérité, Pierre Vidal-Naquet, une conscience intellectuelle. On en parle avec François Doss, historien également, historien des idées, qui signe à la découverte une biographie de ce chercheur intellectuel, historien, donc était Pierre Vidal-Naquet.
Merci et à tout à l'heure. L'Élysée avait promis un président protecteur et pour son premier discours depuis le début de la crise du coronavirus. C'est un véritable plan de bataille qu'Emmanuel Macron a donc esquissé hier face à ce qu'il a lui-même qualifié de plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Le chef de l'État s'est posé en père de la nation, appel à la mobilisation générale et à l'unité. Une manière aussi, face au vertige de l'accélération de l'histoire, de mieux faire accepter aux Français certaines mesures drastiques. Alors, pour protéger les plus fragiles, le président a d'abord invité toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, mais aussi celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques, de rester autant que possible à domicile, une sorte donc de confinement volontaire. Et puis, décision d'ampleur inédite, le chef de l'État aura surtout provoqué la surprise en annonçant la fermeture dès lundi jusqu'à nouvel ordre de toutes les crèches, les écoles primaires, les collèges, les lycées et les universités. Élie Habergel, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors depuis ce matin, on en sait un peu plus donc sur la manière dont tout cela va s'organiser. Tout d'abord, la fermeture des établissements scolaires durera au moins jusqu'aux vacances de printemps, ce qui signifie par exemple que la tenue des concours, dont certains sont programmés dans les toutes prochaines semaines, sera examinée au cas par cas. En revanche, s'agissant du baccalauréat, là, le ministre de l'Éducation a indiqué que le principal scénario était aujourd'hui de le maintenir. Quoi qu'il en soit, comment dès lors organiser une continuité pédagogique? Ce matin, Jean-Michel Blanquer a évoqué un dispositif baptisé « Ma classe à la maison ». De quoi s'agit-il, Élie?
Il s'agit d'assurer des cours sur Internet à la maison, de la grande section à la terminale. Pas question de profiter d'être confiné pour cela couler douce. Nous organisons une continuité pédagogique avec toute la communauté éducative. Voilà ce que déclarait ce matin Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale veut amplifier les cours à distance.
Je pense aux environnements numériques de travail qui sont assez généralisés maintenant. Évidemment, cette combinaison du national et du local, c'est-à-dire ma classe à la maison qui est le dispositif national, plus la communication directe des professeurs via les environnements numériques de travail, qui va permettre d'avoir ce contact au quotidien avec les professeurs et des progressions pédagogiques garanties.
Ma classe à la maison est gérée par le CNED, l'organisme officiel d'enseignement à distance. Quelques heures de cours par jour, des classes données en visioconférence par les enseignants, à suivre sur l'ordinateur, la tablette. Mais ce système peut devenir inégalitaire, dénonce le SNUPP-PFSU, le syndicat majoritaire dans le premier degré. Tous les enfants n'ont pas d'ordinateur performant, de connexion Internet au débit chez eux. Pas de temps d'échange avec les professeurs, ni de suivi personnalisé non plus. Pour le syndicat, ma classe à la maison, c'est le service minimum, mais qui ne remplace pas de vrais cours dans les écoles.
Alors, l'autre question évidemment liée à cette fermeture des établissements scolaires pour plusieurs semaines, rappelons-le, concerne les parents. Comment, Élie, vont-ils s'organiser et surtout, quelles solutions vont leur être offertes?
Eh bien, dans ce cas, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Le gouvernement assure que les enfants des personnels de santé seront systématiquement gardés en cas de besoin. Hier soir, Emmanuel Macron a encouragé les entreprises à faciliter le télétravail pour les salariés, mais avec des enfants très jeunes, ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas, si vous êtes contraint de rester chez vous, vous pouvez demander un arrêt de travail. pour y avoir recours, il faut qu'il n'y ait pas d'autres alternatives. C'est à votre employeur de faire les démarches auprès de la Sécurité sociale et vous touchez des indemnités journalières dès le premier jour, sans délai de carence. Autre solution, les congés payés, si votre entreprise est d'accord. Mais attention, si vous en avez posé en mai, par exemple, votre employeur peut vous demander de les modifier et de les prendre dès lundi.
Voilà, et puis il existe encore une question subsidiaire, Ellie, celle de savoir si la fermeture des écoles est une solution efficace pour lutter contre la propagation du virus. Dans le cas des fermetures déjà actées précédemment suite à une contamination, la question, bien entendu, fait moins débat. Mais qu'en est-il de ces fermetures préventives?
Ces fermetures préventives, comme vous dites, doivent servir à freiner fortement la progression du coronavirus. Alors oui, les enfants ne sont pas les plus vulnérables face à la maladie, mais ils sont considérés comme des vecteurs de contamination. Des porteurs sains, potentiellement très dangereux s'ils sont en contact avec des personnes âgées ou des gens qui souffrent de maladies respiratoires. Emmanuel Macron a ainsi justifié la fermeture des écoles dans son allocution hier soir. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques, sont ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, a déclaré le chef de l'État. Alors que le matin même de ces annonces, Jean-Michel Blanquer assurait qu'il n'y aurait pas de fermeture massive des écoles. Mais lundi, plus de 12 millions d'élèves français resteront confinés chez eux. Une décision historique qui n'a jamais été prise par le passé.
Merci Élie Habergel. Alors si l'exécutif a donc décidé de la fermeture à partir de lundi des crèches, des écoles, des universités, en revanche, entre urgence sanitaire d'un côté et continuité démocratique de l'autre, Emmanuel Macron a finalement renoncé hier à reporter les élections municipales dont le premier tour se tiendra bien dimanche. Alors avant de détailler les dessous de ce pari pour le moins audacieux, essayons tout d'abord de comprendre avec vous, Nicolas Joly, comment les maires vont devoir s'organiser pour assurer ce scrutin conformément aux recommandations d'hygiène et de sécurité en cours. Très clairement, l'exécutif a mis sur les épaules des maires la responsabilité de veiller au strict respect des barrières sanitaires et à Paris, notamment Nicolas, où le plan de bataille a été dévoilé dès hier.
Anne Hidalgo a convié la presse pour faire passer un message clair.
Sérénité et confiance.
Elle affirme que tout est prévu pour prendre le moins de risques possible. Chaque bureau de vote sera nettoyé avant et après le scrutin.
Nous prévoyons des renforts, bien sûr, pour assurer le ménage très tôt lundi matin. La totalité des 897 bureaux seront ouverts et tenus de 8h du matin à 20h le soir.
Une réserve de fonctionnaires est prévue pour assurer les remplacements du personnel au pied levé en cas de désistement de dernière minute lié ou pas au coronavirus. Des moyens humains donc, mais aussi matériels.
Nous prévoyons donc naturellement un stock de stylos de secours au cas où les électeurs n'en auraient pas. Mais bien sûr, ces stylos seront nettoyer après chaque usage.
En clair, d'après la mairie, tout est sous contrôle. Et Anne Hidalgo espère que les Parisiens iront voter comme ils l'avaient prévu. Espère parce qu'il est possible que le virus renforce l'abstention. C'est en tout cas ce qu'affirme un sondage Ipsos paru lundi. 16% des sondés déclarent qu'ils n'iront pas voter à cause de l'épidémie. François Cros, c'est lui qui a dirigé l'enquête.
L'impact, c'est ça qui est difficile à mesurer, mais ça peut en tout cas jouer à la baisse sur une participation qui s'annonçait déjà pas très fort du fait que la campagne a été parasitée complètement d'abord par le mouvement social contre la réforme des retraites et par la couverture médiatique autour du coronavirus.
Les responsables des instituts de sondage accorderont une attention particulière aux raisons que donneront les abstentionnistes afin de déterminer la part de l'effet coronavirus dans leur décision de ne pas aller voter dimanche.
Voilà, et j'ajoute qu'il est encore possible de faire une procuration jusqu'à demain en commissariat ou dans certaines mairies d'arrondissement. Outre donc les problèmes logistiques, le maintien de ces élections est aujourd'hui soumis au risque que le pic de l'épidémie entre les deux tours ne rende ce scrutin bien plus risqué encore, et notamment pour les seniors à qui Emmanuel Macron a demandé un quasi-confinement volontaire. D'où cette question, pourquoi dans de telles conditions Emmanuel Macron a-t-il pris le risque de maintenir les municipales? Le président a fait référence aux avis positifs des scientifiques, mais davantage encore, il semble que le président aura surtout craint une levée de bouclier de l'opposition. Dès hier après-midi, le président des Républicains, Christian Jacob, avait lui-même commencé à parler de coup d'État en cas de report. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
En clair, Emmanuel Macron aurait fait le choix de ne pas créer un clivage politique de plus, car le tollé aurait probablement vite été général.
Alors tout au long de son allocution, hier soir, Emmanuel Macron a privilégié privilégier la raison à l'émotion en s'appuyant sur l'expertise des scientifiques et des médecins. Et pour expliquer son choix de maintenir les élections municipales, Emmanuel Macron se justifie. Il est important d'assurer la continuité de notre démocratie et de nos institutions. Continuité démocratique, des mots repris il y a quelques minutes par le Premier ministre Édouard Philippe, venu superviser l'organisation des municipales au ministère de l'Intérieur. Alors, dans un possible scénario à l'italienne, le chef de l'État a pourtant bien envisagé de reporter le scrutin municipal, mais dès que cette possibilité a pris corps, les Républicains et mais aussi associations d'élus sont montés au créneau pour dénoncer à l'avance un coup de force institutionnel. En fin d'après-midi, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui faisait valoir son opposition à tout report du scrutin. Alors, pour éviter de rajouter une crise politique à la crise sanitaire, en utilisant l'article 16 de la Constitution, le chef de l'État a décidé de maintenir le scrutin municipal en faisant le choix de dramatiser cette séquence, alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Emmanuel Macron rend de facto ses élections secondaires, et s'il doit y avoir un vote sanction, il sera alors forcément atténué par une participation en baisse. Rappelons qu'un électeur sur quatre expliquait il y a quelques jours, bien avant cette allocution solennelle, ne pas aller voter en raison de cette épidémie. Force est de constater aujourd'hui que la politique est entrée de plein pied dans cette crise sanitaire. Le président de la République appelle à l'union sacrée, à la mobilisation de toute la nation pour faire face à l'épidémie, tout en se projetant dans une prochaine séquence, celle où il faudra réinventer notre modèle de société et d'économie mondialisée.
Merci Pierre Neveu. Alors pour l'heure, la propagation du nouveau virus a fait 61 morts en France et contaminé 2876 personnes dans tout le pays, soit 600 cas supplémentaires en seulement 24 heures. Et face à cette accélération, le discours a changé. Alors pas seulement au niveau de l'exécutif, on vient de l'entendre, mais les médecins eux-mêmes changent de ton aujourd'hui et se disent de plus en plus inquiète. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez joint par téléphone le docteur Jean-Philippe Mazzucotelli, chef du service de chirurgie cardiaque au nouvel hôpital civil de Strasbourg. C'est l'un des deux hôpitaux de la ville qui reçoit des patients venus du cluster de Mulhouse. Et ce médecin, Tara, vous dit aujourd'hui que les services de réanimation sont presque saturés.
Oui, hier, il a envoyé un tweet qui disait qu'effectivement, ils étaient au bord de la saturation avant même donc que le président de la République s'exprime. Au bord de la saturation, car il faut savoir qu'il y a 60 lits de réanimation sur les deux établissements à Strasbourg. Dans l'hôpital où travaille le docteur Mazzucotelli, il y a trois services de réa. Celui de réanimation médicale est déjà plein de 26 malades du Covid-19. Tous les lits sont occupés. Dans le service voisin de réanimation de chirurgie polyvalente, il y a trois patients positifs, ce qui veut dire des risques potentiels de contamination pour les autres. Et puis un malade est hospitalisé en réanimation cardiaque, lui aussi a attrapé le coronavirus Covid-19. Donc pour l'instant, ça tient encore, mais jusqu'à quand ?
Pour l'instant, on arrive encore à fonctionner, c'est-à-dire on arrive à assumer les urgences qui ne sont pas liées, bien sûr, au virus. Donc l'urgence de chirurgie cardiaque, même intervention de chirurgie lourde, de cancérologie, on arrive encore à le faire. Mais je pense qu'on va vite être complètement dépassé. Parce que là, il nous reste que quelques lits de réanimation sur lesquels on peut encore jouer. Mais si on ne fait rien dans les jours prochains, parce qu'on n'est qu'au début de l'épidémie, je pense que nous serons complètement saturés. Et ce que l'on refuse, c'est d'avoir à décider qui on va réanimer ou non en fonction de sa maladie. Ce que font actuellement les Italiens, par exemple, puisque eux sont déjà dans une situation extrême. Et ça, c'est pas possible. On peut pas en arriver là, pas dans un pays comme la France, qui prétend d'ailleurs avoir un excellent système de santé. On ne peut pas se permettre ça.
Alors que faut-il justement faire pour éviter donc ce scénario catastrophe ? Tara, vous avez posé la question au professeur Mazzucotelli.
Oui, pour ce spécialiste de chirurgie cardiaque, le système de soins a été dès avant la crise en très grande difficulté. Lui-même s'est joint au mouvement des chefs de service démissionnaires. C'est quelques 1200 médecins qui, dans toute la France, ont décidé d'abandonner leurs fonctions administratives. Il l'a fait, lui, à Strasbourg, pour taper du poing sur la table en disant que les personnels hospitaliers n'arrivaient plus à travailler dans des conditions de salaire et d'équipement aussi déplorables. Ça, c'était donc avant le Covid-19. Or, maintenant, il y a urgence sanitaire, assure le docteur Mazzucotelli.
Il faut effectivement absolument empêcher que le nombre de patients graves liés au coronavirus augmente de façon trop rapide. Parce que si ces patients augmentent en grand nombre, on sera dans l'incapacité d'assurer leur prise en charge, mais aussi la prise en charge de toutes les autres urgences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est nous donner les moyens de fonctionner. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, tout est fait pour réduire les dépenses dans l'hôpital public. On a réduit la masse salariale, on a réduit les investissements. Et donc aujourd'hui, on est en difficulté majeure. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg, par exemple, ont 100 postes d'infirmières qui ne sont pas pourvus. Et d'autres, bien d'autres, il y a des manipulateurs radio, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on ait du matériel. Le personnel, on ne pourra pas l'avoir parce que, enfin, on ne pourra pas engager des infirmières puisqu'on va dire qu'il n'y en a pas sur le marché. Donc la seule solution, c'est de pouvoir les réquisitionner. Donc c'est ce qu'on fait ici dans l'hôpital, c'est-à-dire qu'on ferme les unités médicales, on ferme des unités chirurgicales pour récupérer les infirmières, les former dans un temps le plus court possible pour qu'elles puissent aider dans les services de réanimation, pour qu'on puisse ouvrir des lits. Et après, il faut surtout du matériel, il faut des respirateurs, il faut des masques, des combinaisons, enfin, il faut tout ça, parce que, ne croyez pas, mais actuellement, on manque de masques à l'hôpital. C'est-à-dire que les soignants, aujourd'hui, ont un accès aux masques extrêmement limité, parce que les stocks sont réduits, on va dire, au minimum.
Mais vous manquez vraiment ou bien on vous demande juste de faire attention et de les prendre au dernier moment ?
Ah ben on manque, parce qu'aujourd'hui, dans une situation d'épidémie, tous les soignants devraient avoir des masques. Or aujourd'hui, on ne peut pas mettre ces masques. D'ailleurs, ça fait 3 semaines qu'on nous le dit, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas de stock suffisant de masques et donc il va falloir faire des économies. Donc on fait des choix entre les personnels contact ou non contact, etc. Ce qui n'a pas de sens en soi. Comme disent les Italiens, aujourd'hui, les Italiens, ils ont des combinaisons et tout ça. Si on veut réduire la contamination des personnels, il faut que les personnels soient protégés.
Pas de stock suffisant de masques, disait donc ce médecin. Comment, Tara, en est-on arrivé à cette pénurie ?
Eh bien, c'est une vraie question. Les autorités sanitaires, à commencer par le président de la République hier, qui a beaucoup loué le dévouement des soignants, n'ont cessé de répéter ces derniers jours que le système s'est préparé, qu'on anticipe. Ce n'est pas l'avis du chef de service de chirurgie cardiaque à Strasbourg.
Ah ben, de toute façon, je pense que rien n'a été fait pour effectivement qu'on soit opérationnel. Quand beaucoup de gens, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les directeurs d'ARS, prétendent qu'on est prêt, etc., mais c'est complètement faux. On le voit même pour les généralistes. Les généralistes, ils n'ont pas accès facilement aux masques, ils sont obligés de les économiser. Moi, je suis allé dans une pharmacie en tant que professionnel de santé pour voir si je peux avoir des masques. Eh bien non, il n'y en a plus. Et les 15 millions de masques de la réserve que M. Macron a libérés, eh bien, je ne sais pas où ils sont, ou alors c'est largement, de toute façon, insuffisant. Donc, si c'est comme ça pour les masques, c'est comme ça pour tout le reste. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans l'hôpital public, on est obligé d'arrêter toutes les autres activités pour se recentrer sur cette épidémie. Et aujourd'hui, on est touché dans l'Est, mais dans peu de temps, ce sera toute la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut relayer cette information. Non, rien ne va, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on fait le maximum ici pour assumer, mais si l'épidémie continue comme ça, on sera bientôt totalement dépassé. Parce que là, il faut qu'on apprenne de ce qui est arrivé aux Chinois et aux Italiens. Et donc là, il faut anticiper beaucoup plus vite. On a trop traîné. Et je discutais hier avec mes collègues d'infectiologie qui ont alerté le directeur de l'ARS en disant « Attention, l'épidémie va exploser, on va être en grande difficulté. » Mais non, pour l'instant... Pour tous ces gens qui sont pas sur le terrain, tout va bien. Donc là, maintenant, ça suffit. Là, maintenant, il y a une réelle urgence à investir ou à chercher le matériel là où il y en a pour répondre à la demande.
Un dernier mot très important, Thomas, tout de même. Le docteur Jean-Philippe Mazzucotelli souligne aussi avec force que 98% des personnes infectées par le coronavirus vont s'en sortir et reprendront une vie normale. Mais plus il y aura de malades en même temps, plus le système risque de craquer.
Merci Tara Schlegel. Alors, avec un bilan toujours plus lourd lié à la maladie, les dirigeants du monde entier réagissent aujourd'hui en ordre dispersé. Le coronavirus pousse de plus en plus d'États à se replier sur eux-mêmes. La Slovaquie a annoncé la fermeture de ses frontières à tous les étrangers, à l'exception des Polonais. La République tchèque fermera, elle, complètement ses frontières lundi. En Amérique latine, plusieurs pays ont renforcé leurs restrictions sur les vols en provenance d'Europe ou d'Asie. L'Australie a appelé ce matin ses ressortissants à reconsidérer leur projet de voyage à l'étranger, quelle que soit la destination. L'Australie, d'ailleurs, où le ministre de l'Intérieur a lui-même été testé positif aujourd'hui. Et puis, preuve toujours et encore que le virus se joue des frontières et des barrières sociales. La femme du Premier ministre canadien a, elle, également également été contaminé. Justin Trudeau est lui toujours en bonne santé, mais restera à l'isolement durant 14 jours. Alors toutes ces réactions en ordre dispersé, ajoutées à l'interdiction temporaire d'entrée aux États-Unis des voyageurs en provenance d'Europe, sans oublier les mesures jugées décevantes des autorités monétaires comme la Banque Centrale Européenne pour contrer la panique, tout cela affole les marchés. Toutes les bourses mondiales ont connu hier un violent accès de fièvre. Aujourd'hui encore, à la bourse de Tokyo, le Nikkei a fini sur une chute de plus de 6%. En revanche, il semble que les places européennes amorcent ce matin un très timide rebond. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour résorber cette crise économique liée donc à la crise sanitaire, Emmanuel Macron a notamment déclaré hier que les gouvernements européens devaient soutenir l'activité puis la relancer. Quoi qu'il en coûte, la France s'apprêterait désormais, à l'instar d'ailleurs de nombre de ses voisins, à dépenser des sommes gigantesques. Et sur ce point, justement, Anne-Laure, eh bien, on a un peu plus de précision.
Oui, ça coûtera à la France des dizaines de milliards d'euros. Voilà les chiffres communiqués ce matin par les ministres de l'économie et du travail. Le dispositif le plus coûteux étant le chômage partiel, une mesure qui permet aux entreprises de gérer une baisse d'activité sans licencier. L'État s'engage, et c'est la nouveauté, à rembourser intégralement l'employeur, et ce quel que soit le salaire en question. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne compensent qu'au niveau du SMIC. L'État va devoir par ailleurs assumer le coût des reports de cotisations. Les entreprises en difficulté pourront en faire la demande sans avoir de justificatif à produire. Il faudra aussi mobiliser de l'argent pour abonder un fonds de solidarité, relever les garanties apportées par la Banque publique d'investissement pour les prêts aux entreprises. Et puis, il y aura également un coût important lié au paiement des indemnités journalières pour notamment les parents qui ne peuvent pas faire de télétravail, on en parlait, et qui sont contraints de garder leurs enfants. En conclusion, le gouvernement ne se fixe pas de limites budgétaires. La boussole n'est plus les critères de Maastricht qui imposent un déficit en dessous des 3% du produit intérieur brut. Avant même cette crise, d'ailleurs, Emmanuel Macron avait lancé le débat sur l'opportunité de continuer à suivre cette règle. Mais cette fois, il n'y a plus de doute au plus haut niveau de l'État sur l'urgence de la situation qui nécessite de rompre avec l'orthodoxie budgétaire. Une logique qu'avait d'ailleurs poursuivie en son temps Nicolas Sarkozy pendant la crise de 2008.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors on l'a dit hier soir en 27 minutes chrono, la France a tout à la fois mis ses enfants à l'abri et ses entreprises en alerte tout en promettant de payer l'addition ou quand la montée exponentielle des contaminations a mis fin au sentiment qui prévalait parfois jusque-là selon lequel la France minimisait en somme les périls. En revanche, il est un pays où les critiques continuent de monter sur la réponse jugée trop légère face à la crise. C'est la Grande-Bretagne. Hier, à l'issue d'une réunion de crise, le Premier ministre Boris Johnson a certes annoncé le passage à la phase 2, mais on est encore bien loin des mesures radicales prises notamment par son voisin irlandais. Les précisions à Londres d'Aude Soufi.
Beaucoup plus de familles vont perdre des êtres chers, prévient Boris Johnson en parlant de la plus grave crise sanitaire de cette génération. Pourtant, les actes ne semblent pas en adéquation avec les mots. Les consignes qui sont données, s'isoler au moins 7 jours en cas de symptômes, ne pas faire de voyage scolaire à l'étranger, ne pas partir en croisière pour les plus de 70 ans souffrant de maladies. Selon le gouvernement, ces mesures suffisent. Boris Johnson.
Si nous retardons le pic, même seulement de quelques semaines, notre service de santé sera dans une meilleure position. La météo s'améliorera et nous aurons plus de temps pour la recherche médicale.
Les écoles restent ouvertes, le métro de Londres est presque toujours aussi bondé et les Britanniques continuent de se rendre au pub, aux concerts, aux courses de chevaux. À Cheltenham, par exemple, 60 000 visiteurs par jour depuis mardi. La Ligue de football a suspendu les rencontres jusqu'au 4 avril, mais la décision a été prise de façon indépendante. L'Écosse a mis en place unilatéralement une interdiction des rassemblements de plus de 500 personnes et de plus en plus ici s'étonne que le reste du pays ne suive pas cette règle, y compris dans les rangs de la majorité. Député conservateur Jeremy Hunt, ancien ministre de la Santé.
Je pense que c'est surprenant et inquiétant que nous ne prenions aucune de ces mesures, alors que dans seulement 4 semaines, nous serons dans la situation de l'Italie.
L'idée des autorités britanniques est de protéger les plus faibles, mais de laisser jusqu'à 60% de la population contracter le virus pour développer une immunité de groupe.
Dans le reste de l'actualité, en bref, en Roumanie, le Premier ministre désigné a jeté l'éponge hier, un geste qui permet en réalité au chef du parti libéral, Ludovic Orban, renversé début février par une motion de censure, de revenir donc en poste à la tête du gouvernement, sauf que ce dernier vient d'annoncer qu'il se mettrait en confinement après avoir côtoyé un sénateur de son camp testé positif au nouveau coronavirus. Le Pentagone a annoncé la nuit dernière avoir frappé 5 positions d'une milice pro-iranienne en Irak en riposte à une attaque de la veille contre une base de la coalition internationale et qui a coûté la vie à 2 militaires américains et un soldat britannique. Des frappes de représailles donc qui ont fait 6 morts et qui risquent fort de déclencher de nouveaux appels à expulser les troupes américaines du pays, ainsi qu'on a d'ailleurs récemment décidé le Parlement irakien. Enfin, aux États-Unis, Chelsea Manning, l'ex-informatrice de WikiLeaks, qui cette semaine avait tenté de se suicider depuis sa cellule, a été libérée. La justice américaine a estimé que son maintien en détention ne répondait plus à un objectif de coercition. En revanche, les pénalités financières qui avaient été fixées pour forcer l'ex-analyste du renseignement à témoigner sur WikiLeaks et notamment son fondateur Julian Assange reste valable. Elle devra payer 256 000 dollars d'amende. On termine avec un mot de la couleur du ciel pour cet après-midi qui alternera entre belles éclaircies, passages nuageux, une nouvelle dégradation pluvieuse arrivera par la Bretagne en fin de journée. Par ailleurs, 3 départements, le Nord-Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et l'Eure restent en vigilance orange pour crue. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.